Cette année, l'Orchestre Symphonique Universitaire de Rennes souffle ses 70 bougies. Afin de célébrer comme il se doit son anniversaire, l'orchestre investit la salle rennaise du Diapason le mercredi 30 novembre. Il propose un programme quelque peu spécial, entièrement consacré à la musique de film. Entre bandes originales et pièces dites classiques, la formation d'une soixantaine de musiciens invite donc son public à découvrir ou à redécouvrir la musique de film avec entre autres des pièces de Star Wars ou encore même de Princesse Mononoke. Au détour d'une asso est donc parti à la plaine de Beau, dans leur local de répétition afin de rencontrer trois de ces musiciens amateurs ainsi que leur chef d'orchestre Franck Alexis, lors d'une des répétitions consacrées au programme de leur 70e anniversaire. Laura, violoniste au sein de l'orchestre, mais également secrétaire de l'association et doctorante en archéologie à l'Université de Rennes 2, nous éclaire sur l'historique de l'orchestre ainsi que sur ses projets à venir.
Alors, concernant l'historique de l'orchestre, en fait, à la base, l'idée de cette association, elle date de 1942, mais on va dire que c'était des temps un petit peu troublé. Donc l'association a vraiment été créée en 1947 par des universitaires, dès le départ plutôt par des professeurs en fait d'ailleurs d'université et de grandes écoles. Et puis voilà, dès le départ le but était d'intégrer tout le personnel universitaire avec les étudiants, donc de pas faire de différence d'âge. Et puis dès le départ l'orchestre a été associé assez vite en fait à la saison culturelle de la ville, dans la mesure où très vite nos concerts se sont déroulés au théâtre de la ville qui est maintenant l'Opéra de Rennes. Et depuis, on fait. Le nombre de concerts par an varie. Il y a eu des périodes plus ou moins fastes. Là, actuellement, on est à une moyenne de 5-6 par an, avec 2 à 3 programmes, en fonction de la manière dont on organise l'année. Là, par exemple, cette année, on travaille 3 programmes différents. Le programme musique de film, donc qu'on va présenter le 30 novembre au Diapason et le 6 décembre à la Fac de droit. Et ensuite, on enchaîne sur un deuxième programme autour de Roméo et Juliette. Ça devrait être un très chouette projet aussi. Là, qu'on présentera le 25 mars à Vezin-le-Coquet et le 4 avril au Tambour, à Rennes 2. Et ensuite, on enchaînera sur un troisième programme pour là vraiment fêter nos 70 ans, du coup, à l'Opéra de Rennes le 20 juin. Tous les ans, en fait, notre concert de fin d'année se déroule à l'Opéra de Rennes. C'est vraiment notre plaisir à nous parce qu'on a la chance du coup de pouvoir jouer dans une salle qui est honnêtement splendide, avec une acoustique vraiment, vraiment formidable. On est toujours très bien accueillis par l'équipe sur place et c'est vrai que c'est des conditions exceptionnelles pour un orchestre amateur de pouvoir jouer dans ce type de salle.
Je demande ensuite à Laura si l'orchestre a déjà eu l'opportunité d'aller jouer en dehors du territoire rennais.
Alors, un peu plus loin en France, ça dépend. Il y a eu plusieurs échanges d'orchestres. Le plus récent, c'est un échange qu'on a fait avec l'orchestre de Brest où on était allé. Depuis, il y a eu un échange aussi avec l'orchestre de Rouen, alors qu'on a invité il y a 2 ans. Le but maintenant est de faire l'échange retour et d'aller à Rouen. C'est en stand-by pour le moment. On n'abandonne pas le projet. Le problème, c'est que là, l'orchestre de Rouen rencontre pas mal de difficultés pour trouver une salle justement pour nous accueillir. Nous, on a de la chance sur Rennes d'avoir 2 salles, le Tambour et le Diapason, universitaires, donc qui peut nous être mise à disposition gratuitement. C'est le cas pour nos 2 concerts là en cours d'année, la salle nous est mise à disposition. Rouen n'a pas ça, malheureusement, et du coup, vu le prix de location des salles, c'est très compliqué du coup pour organiser tout un échange et inviter un deuxième orchestre pour eux, c'est compliqué.
Mais comment donc est composé cet orchestre? Comment se renouvelle-t-il et quelles sont les démarches à suivre pour l'intégrer?
Grosso modo, on est à un tiers d'étudiants, un tiers de personnel universitaire et un tiers d'extérieurs. Le recrutement, en fait, il y a certaines personnes qui restent globalement tous les ans, qui sont là depuis un certain temps, puis qui assurent, on va dire, une base permanente, plus ou moins. Et après, on a un renouvellement, plus ou moins régulier. Avec les étudiants, en général, en fait, ce sont tout simplement eux qui nous contactent en début d'année, voilà, pour savoir comment ça se passe. Donc, on leur dit, venez aux premières répétitions. On fait une petite audition pour s'assurer qu'il y a un niveau minimum, parce que voilà, on vise quand même un programme. Voilà, on a envie de se faire plaisir aussi au niveau du programme, donc il faut que les musiciens puissent suivre derrière, clairement. Et voilà, et donc du coup, on a parfois des problèmes de remplissage de pupitres, certains pupitres qui sont plus demandés que d'autres. Alors, il y a des variations, là, selon les années. Il y a des années où on a 12 candidatures de flûte, l'année suivante, on en a 2, et puis l'année d'après, c'est inverse avec les clarinettes. Souvent, les vents, comme ils sont moins nombreux, en fait, ils sont 2-3 par pupitre, normalement, maximum. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de marge de manœuvre que pour les violons, où de toute façon, globalement, on est entre 20 et 30. Donc on peut beaucoup plus accueillir de violonistes que de flûtistes. Du coup, c'est un orchestre symphonique, donc avec toutes les cordes, violon 1 et 2, alto, violoncelle, contrebasse. Et ensuite, on a toute la grande harmonie, donc pour les bois, flûte, clarinette, hautbois, basson, et pour les cuivres, donc on a cor, trompette, tuba, trombone, et on a aussi des percussions. Donc il n'y a que le saxophone qui n'est pas chez nous, parce qu'en fait le saxophone est un instrument qui a été inventé il y a très peu de temps, et donc qui n'est généralement pas intégré en fait, enfin voilà, qui n'était évidemment pas intégré dans les symphonies de Beethoven par exemple. Souvent, ils font plus des apparitions ponctuelles pour justement donner un effet particulier. Et la plupart des compositeurs de musique de film travaillent quand même sur une base d'orchestre symphonique. Donc voilà, les saxophones ne sont pas toujours présents. Là, en tout cas, on pouvait globalement se débrouiller sans. Donc voilà, on n'a pas cherché à faire de recrutement particulier. Après, si pour un projet, on a besoin de recrutement spécifique, là par contre, on va faire circuler des appels par voie d'affichage, par mailing list éventuellement. On a des contacts avec d'autres associations aussi rennaises, dont des orchestres d'harmonie, donc qui ne sont composés que de vent et de percussions, et eux ont des saxophones. Donc si vraiment un jour on a besoin de saxophones, on sait qu'on a potentiellement des musiciens qui pourraient peut-être être intéressés par le projet.
C'est après cet extrait du thème Princesse Leia, composé par John Williams et donc interprété par l'Orchestre Symphonique Universitaire de Rennes, que nous retrouvons Pierre, ancien professeur de sciences économiques à l'Université de Rennes 1, hautboiste depuis 50 ans au sein de l'orchestre, mais également trésorier de l'association depuis 20 ans. Il témoigne de son expérience.
Donc moi j'ai commencé le hautbois puisque c'est ça que c'est mon instrument. J'ai commencé quand j'avais 10 ans, cet instrument, à l'école de musique de Brest, puisque je suis originaire de Brest, et puis ensuite j'ai continué à Rennes, au conservatoire. Je n'ai jamais eu l'intention d'en faire une carrière professionnelle, donc je suis resté tout le temps, comme la plupart des personnes qui sont dans cet orchestre, un amateur, avec effectivement la chance quand même, grâce à un orchestre comme celui-là, ou à quelques autres orchestres que j'ai pu fréquenter, de faire des concerts très, très régulièrement finalement. Quand je compte le nombre de concerts que j'ai fait depuis mes 10 ans, ça commence à devenir impressionnant, quoi. Quand j'y suis arrivé au milieu des années 60, à la fin des années 60, disons, c'était déjà un orchestre symphonique, moins fourni, on avait moins de cuivre, on avait moins de tous les pupitres, moins de violon, c'était un plus petit orchestre, plus format, ce qu'on appelle le format Mozart, avec de temps en temps des recrutements extérieurs qui nous permettaient d'accéder à un répertoire un peu plus varié. Et donc le répertoire a pas mal changé aussi, c'est-à-dire que autrefois c'était, disons, un répertoire assez classique, c'est-à-dire Beethoven, Mozart, Haydn, des choses comme ça. Alors que maintenant, avec les effectifs que l'on a, et puis la hausse du niveau, il faut le dire aussi, de l'orchestre, on peut s'attaquer à des œuvres plus difficiles, plus complexes à monter, donc dans le répertoire plutôt romantique ou même du début du XXe siècle, donc avec un orchestre plus fourni et puis des œuvres plus ambitieuses musicalement parlant. Donc ça a été quand même la grande évolution, mais pour le principe de base, ça reste toujours la même chose, c'est-à-dire un concert symphonique classique avec, en général, disons 9 fois sur 10, un concerto, un soliste, avec souvent, pour les solistes, la participation de jeunes musiciens qui sont en début de carrière, les solistes sont en général des professionnels, bien sûr, ou qui sont en tous les cas au minimum au conservatoire de Paris, ou qui sont passés par là, qui commencent une carrière professionnelle, donc à qui on donne l'occasion de jouer avec orchestre, parce que finalement, pour les jeunes en début de carrière, c'est pas aussi évident que cela de pouvoir jouer une œuvre avec orchestre. Donc ça, c'est un peu aussi notre fonction, et ça l'a toujours été, et on continue. Même si ces dernières années, on a eu le grand plaisir d'accompagner aussi les solistes de l'Orchestre de Bretagne, qui ont eu la gentillesse de venir jouer avec nous des concertos et de nous donner en même temps de bons conseils au passage, bien sûr, parce que c'est des vrais professionnels.
Mais comment a évolué l'orchestre au cours de ces 50 dernières années ?
La grande évolution, alors là je parle plus en tant que trésorier d'ailleurs, c'est qu'à l'origine, dans les années 50, hein, quand j'étais un petit garçon, nous jouions, l'orchestre donnait son concert de fin d'année à l'opéra, qui à l'époque s'appelait le théâtre municipal d'ailleurs, et la salle était mise à notre disposition gratuitement. Ça, les temps ont bien changé depuis, donc après des étapes que je passe sous silence, maintenant il faut en fait payer la location de la salle, même à un tarif disons plus avantageux que la norme, ça nous coûte quand même plusieurs milliers d'euros de faire ce concert à l'opéra en fin d'année. Alors bien sûr, on a aussi des recettes, le concert n'est pas gratuit, donc mais on n'équilibre pas notre budget. Donc c'est ça le gros problème auquel on a été confronté, qu'on arrive à résoudre finalement. Autrement, ce que je dirais aussi, et on l'a vécu là, cette année en plein, évidemment, il est dans notre fonction de donner aussi des concerts à l'université. Alors évidemment, il y a le diapason, il y a le tambour à Rennes 2. Donc on donne un concert dans chaque salle chaque année. Prochainement au diapason, et puis au mois de janvier, je crois, ou un petit peu plus tard, au tambour. Et puis, juste avant Noël, on va donner le concert à la fac de droit, à ce qu'on appelle notre concert de Noël. Alors, d'habitude, depuis très longtemps, c'était à la fac de médecine, pour des raisons variées, on ne peut plus le faire. Et le problème que l'on a à ce moment-là, c'est de trouver des amphis ou des espaces suffisamment grands pour nous accueillir. Ce qui fait que, pour être tout à fait concret, cette année, pour pouvoir jouer à la fac de droit, parce qu'on est quand même entre 60 et 70, il va falloir démonter des sièges pour gagner un tout petit peu sur la place réservée aux étudiants, normalement, pour pouvoir tous nous causer. Et c'est vraiment dommage, mais bon, maintenant il est trop tard pour revenir là-dessus, mais c'est vraiment dommage que les architectes, quand ils construisent nos amphis, ne pense pas qu'on peut faire autre chose dans un amphi que des cours, quoi. Donc, alors un fac de sciences éco, c'est un petit peu mieux, mais c'est encore un peu étroit, évidemment. Donc ça, c'est notre problème. Parce que si on sort de l'université, il y a d'autres salles, à Rennes, bien sûr, mais à ce moment-là, il faut payer pour les utiliser. Donc ça nous complique évidemment la vie.
Pour payer ces salles, l'orchestre met donc en place un tarif d'entrée et certains partenaires leur viennent en aide avec des subventions.
Très précisément, on a une subvention de Rennes 1, une subvention de Rennes 2. Nous avions une subvention de l'école normale supérieure jusqu'à l'année dernière, mais qui disparaît. Alors on a une petite subvention aussi de la ville, comme toutes les associations, disons, qui ont le label de la ville de Rennes. Et puis, ma foi, c'est tout. Avant, nous avions une subvention du Conseil Général qui a disparu, une subvention du CROUS qui a disparu. Les temps sont plus rudes qu'autrefois, c'est sûr, d'autant plus que les tarifs des salles, enfin les frais que nous avons, eux, ne diminuent pas vraiment. C'est vrai que le bouclage financier est quand même pas très commode, même si, encore une fois, je ne vais pas non plus mentir en disant qu'on est en faillite, c'est pas vrai, mais disons que c'est quand même assez compliqué.
Vous l'aurez reconnu, il s'agissait de l'interprétation du thème d'Harry Potter par l'orchestre. Nous retrouvons maintenant Clarisse, flûtiste au sein de l'orchestre depuis 2001, mais également membre du conseil d'administration.
Moi, quand j'ai commencé en 2001, on répétait à la fac de Rennes 2, dans un amphithéâtre de la fac de Rennes 2, dans le grand bâtiment principal, l'amphi Henri C. Et voilà, on répétait là, donc ça nécessitait du coup un peu d'aménagement, parce qu'il fallait sortir toutes les chaises au moment où on arrivait, qui étaient rangées dans un petit local à côté, donc sortir tous les pupitres, etc. Et je ne sais plus jusqu'à quand on a fonctionné là-bas, mais assez longtemps, peut-être jusqu'en un peu avant 2010, on a dû s'arrêter là-bas. Puis on est venu sur cette salle qui est un petit peu plus fonctionnelle du coup maintenant pour répéter, même si l'acoustique n'est pas formidable. Mais c'est une salle dédiée aux répétitions de différents orchestres de Rennes. Donc tout reste en place. Donc c'est, voilà, de ce point de vue-là, c'est pratique.
Mais comment sont choisis les différents morceaux interprétés par l'orchestre ?
Oui, au final, en fait, on fait un... Tout le monde peut donner son avis. On fait un petit brainstorming par écrit ou voilà, par mail, etc. Chacun peut donner un petit peu... Tous les membres de l'orchestre peuvent dire quelles œuvres ils souhaiteraient jouer dans l'orchestre. Après, au niveau du CR, on rediscute de tout ça, en fonction des possibilités aussi, si on doit trouver des concertistes, des solistes, etc. Et puis, justement, au niveau de l'effectif, pour être sûr que l'effectif corresponde bien, par une certaine homogénéité dans nos programmes et de trouver un peu des fils conducteurs, donc la musique de film pour celui-là, Roméo et Juliette pour le deuxième programme cette année. Donc on essaie de faire quelque chose d'un peu homogène, de varier aussi. Si une année on a joué une symphonie de Brahms, on va éviter d'en rejouer une autre l'année d'après. On prend un peu tout ça en compte. Et puis au final, évidemment, le chef décide aussi de ce qu'il veut diriger. Donc on met tout ça ensemble et puis on essaie de trouver ce qui nous tente le plus, quoi. Le filtre, il se fait surtout par rapport aux compositions aux instrumentistes qu'il faut pour jouer certaines œuvres. Donc voilà. Voilà, exactement. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine partie de la musique quand on avance dans le XXe siècle où il faut beaucoup de percussions, beaucoup de cuivre. Enfin, peut-être que Laura en a déjà parlé, mais donc là on se trouve assez limité parce qu'on a, c'est des pupitres qu'on a plus de mal à recruter. Donc c'est vrai que des fois en termes de décision, au moment du CR, on se limite sur certaines œuvres parce qu'on sait qu'on n'aura jamais le nombre d'instrumentistes nécessaires. Après, on n'a pas beaucoup fait de baroque et plutôt ça s'étale plutôt entre le classique et puis le début du XXe siècle. Et voilà, on reste quand même dans le classique, quoi.
Et quelle différence y a-t-il entre l'Orchestre symphonique universitaire de Rennes et l'Orchestre symphonique universitaire de Bretagne ?
Bah, la première, la plus frappante, c'est effectivement la différence entre le fait qu'ils sont professionnels et nous, on est amateurs. Voilà, donc ça c'est la plus frappante. effectivement, voilà, le niveau n'est pas le même. Les répertoires abordés, on peut retrouver des similitudes, mais nous on travaille 2 à 3 programmes dans l'année. L'Orchestre de Bretagne, ils font beaucoup plus de concerts, ils font beaucoup plus de programmes. Après, je pense qu'on a le fonctionnement d'un orchestre qui peut se retrouver, on est répartis de la même manière, on a le même nombre de musiciens, enfin, il y a des similitudes effectivement. Ce qui est agréable pour nous qui sommes amateurs, de faire quand même de la musique à un niveau qu'on juge déjà intéressant, mais tout en restant amateur. Et puis la plupart du temps, la plupart d'entre nous soit sont étudiants, soit ont un travail complètement extérieur. Donc voilà, ça, c'est une passion et puis c'est de l'amateur, mais du bon amateurisme. Voilà, on essaye.
Enfin, nous retrouvons Franck Alexis, chef d'orchestre depuis 2012 et également professeur de sciences économiques en lycée à Saint-Brieuc. Il nous parle de son parcours.
Moi, j'ai commencé la trompette à 8 ans, je crois, et dans une ville à Saint-Lô, donc dans le département de la Manche, dans un conservatoire qui donnait beaucoup de chance aux jeunes de jouer en orchestre. On avait la gratuité du conservatoire et des cours que l'on prenait lorsqu'on intégrait un orchestre. Donc assez rapidement, j'ai pu intégrer des orchestres de cette manière-là, des ensembles de cuivre, des orchestres d'harmonie. Ensuite, j'ai fait mes études à Caen, puis à Paris. Là, j'ai intégré l'orchestre amoureux, j'ai pu jouer dans l'orchestre français des jeunes. Un orchestre également qui s'est monté, la Société des concerts de la Manche. Et puis voilà, j'ai eu la chance de jouer sous la direction de chefs prestigieux comme Emmanuel Krivine. J'ai rencontré Seiji Ozawa, j'ai pu aborder Claudio Abbado. Enfin voilà, c'est des expériences qui sont très intéressantes. Et puis voilà, quand je suis arrivé à Rennes, j'ai intégré cet orchestre donc aux alentours des années 2000. Et puis toute cette expérience, j'ai essayé de l'apporter au public des trompettes, à l'harmonie, et puis maintenant, en tant que chef d'orchestre, j'essaie de l'apporter à tous les musiciens. J'étais dans l'orchestre auparavant, j'étais trompettiste, et je ne sais plus quelle année j'ai intégré l'orchestre. Je crois que c'est 2000, mais j'ai un doute, je pense que c'était même un petit peu avant. Je n'ai pas vraiment compté. Donc ça faisait pas mal de temps. Et en 2012, on m'a demandé de remplacer Philippe Legrand. Et donc ça fait 4 ans voilà, que je dirige avec bonheur cet orchestre. Moi, j'ai une grosse expérience de musicien dans des orchestres. J'ai joué dans plusieurs orchestres quand j'étais jeune. Et j'ai été amené à faire travailler l'harmonie quand Philippe dirigeait. Et les musiciens, naturellement, ont vu mes capacités à diriger et m'ont proposé du coup de prendre l'orchestre il y a 4 ans lorsque Philippe partait. Alors c'est un statut un peu particulier. Oui, je fais partie du CA, mais je crois que je n'ai pas vraiment de... Enfin, je peux donner mon avis, mais je ne suis pas sûr d'avoir une voix pour, au niveau des décisions. Mais bon, voilà, disons qu'au niveau des discussions, oui, je suis là pour tout simplement donner mon avis en tant que chef d'orchestre et faire valoir ce qu'on appelle la direction artistique par rapport aux choix qui sont pris au niveau du CA. Ce sont des membres de l'orchestre qui sont élus au niveau de l'Assemblée Générale. Et on se réunit 4, 5, 6 fois dans l'année pour tout simplement gérer l'orchestre avec tout un tas de décisions à prendre sur les concerts, sur le bilan financier, sur les programmes à venir. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de discussions avec passion en général. Donc c'est un lieu où on se dit les choses avec franchise. Et en fait, c'est un petit peu comme dans une constitution, c'est un rôle législatif où on prend des décisions et moi j'exécute. Je suis dans l'exécutif et alors je donne forcément mon avis par rapport à ce que je veux diriger, mais voilà, je laisse totale liberté au CA pour prendre des décisions qui s'imposent et pour légiférer donc par rapport aux articles, aux nouveaux articles qu'il faut mettre en œuvre dans cet orchestre.
Merci à Laura, Pierre, Clarisse et Franck, ainsi qu'à tous les musiciens de l'orchestre pour leur témoignage et cet agréable moment de musique. Les 70 ans de l'Orchestre Symphonique Universitaire de Rennes, spécial musique de film, c'est le mercredi 30 novembre à 20h30 au Diapason. Un document écrit et réalisé par Adrien Pasquet. Retrouvez Au détour d'une asso sur le www.c-lab.fr.